En fait, aujourd'hui, nous autres, comment on a organisé ça, on va peut-être commencer un 5 minutes de définition plus formelle de l'agression sexuelle, mais rapidement, puisque c'est une définition qui est très en mouvement, qui est très sociale, qui est très politique, en fait, ça incluant aussi le consentement, qu'est-ce que le consentement, comment, c'est beaucoup ancré dans les normes sociales, dans comment on le comprend, comment on le respecte, comment on ne le respecte pas. En fait, tout au long de l'atelier, on espère pouvoir le définir avec vous. Donc, on va pas s'attarder à vous donner 40 définitions différentes au début. On va vous en donner 2-3, puis après ça, on va parler. Okay, on va commencer par une définition rapide de l'agression sexuelle. Ensuite, on va travailler sur un beau petit texte qui est super intéressant, qui s'appelle « Le viol de M. Smith », mais on va l'appeler « M. Tremblay », parce que comme ça le rend plus actuel, là, ici. Qui est un texte anonyme, en fait, en anglais, que j'ai traduit il y a plusieurs années, puis que là, j'ai ressorti, parce que je me disais « Ah, c'est super bon pour les mythes ». À partir de ce texte-là, on va identifier c'est quoi les mythes qui sont autour de l'agression sexuelle, puis on va les déconstruire en même temps, évidemment. Donc, c'est là qu'on va peut-être donner un petit peu plus de stats, un petit peu plus d'informations comme ça. Puis ensuite...
Mais ensuite, c'est ça, on va discuter un peu ensemble de la notion de consentement. Comme disait Geneviève, c'est une notion qui est un peu floue, qui peut être différente aussi pour chaque personne. Y a pour une personne, le consentement va vouloir dire une chose, puis pour l'autre personne, ben ça va être différent. On va s'attarder sur cette notion-là de consentement pour ensuite parler aussi de comment est-ce que notre socialisation en tant qu'homme, en tant que femme, est interrelié en fait avec le phénomène des agressions sexuelles et quel impact est-ce que ça a. Donc on va se questionner sur notre propre socialisation pour voir ben comment est-ce que c'est lié en fait. Pour aussi faire certains liens avec les conséquences en fait des agressions sur les victimes pour ensuite clore ça. Fait que ça va ressembler un petit peu à ça globalement. Puis c'est ça. Donc dans cet atelier-là, comme on disait, ça ne sera pas 45 minutes de discussion, 45 minutes
Ça se peut qu'on utilise le tableau puis qu'on vous demande de déplacer, on va faire des trucs en petit groupe, fait que faut être modèle dans la vie.
OK.
Pour commencer, je peux vous lire deux définitions d'agression sexuelle qu'on a trouvées à différents endroits. On a les sources pour la plupart des choses qu'on va dire aujourd'hui, mais on va peut-être pas toujours les nommer parce que ça risque d'être long et trop scolaire et bon.
Entre autres, juste si je peux préciser, c'est ça, évidemment que les CALAX, en fait, les centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel ont documenté quand même beaucoup, puis sur leur site ont différents outils, en fait, qui parlent à la fois de définition, de différents mythes, de statistiques. Donc, c'est clair que ça a été une source là, d'information pour nous. Là. Souvent, on n'a pas nécessairement les statistiques en tête. Là.
Fait que l'agression sexuelle peut être conçue d'abord avant tout comme un acte de domination, d'humiliation, d'abus de pouvoir, de violence, principalement commis envers les femmes et les enfants. On peut revenir sur la proportion de chacun un petit peu plus tard. Agresser sexuellement, c'est imposer des attitudes, des paroles, des gestes à connotation sexuelle contre la volonté de la personne, et ce, en utilisant l'intimidation, la menace, le chantage, la violence verbale, physique ou psychologique. Et on voit le lien avec des relations de pouvoir. Une autre définition pourrait être toute activité sexuelle entreprise contre le désir ou sans le consentement de la personne qui l'a subi. Donc là, on a la notion de consentement qui revient, qui n'était pas dans la première définition. On parlait de pouvoir, là on parle de consentement. L'agression sexuelle, c'est inciter, intimider, utiliser la force physique dans le but d'avoir une relation sexuelle ou de contraindre à des attouchements d'ordre sexuel non désiré. Donc, ça peut s'accompagner de menaces d'intimidation, porter atteinte à l'intégrité sexuelle d'une personne. Fait que ça, c'est deux définitions différentes parce qu'on voit, c'est ça, il y a deux éléments qui reviennent souvent dans ces définitions-là. Il y a la notion de pouvoir, puis il y a la notion de consentement. Puis, ce qu'on va essayer de mettre en lien, c'est quoi le lien entre le pouvoir et le consentement. T'sais, est-ce que le consentement peut exister dans une relation de pouvoir, mais vu qu'on est tout le temps dans des relations de pouvoir, je veux pas, dans quelles limites le consentement peut s'exprimer
d'une manière libre et éclairée.
On revient tout le temps à est-ce qu'on peut faire un choix si on est dans une relation de pouvoir, mais comme on est toujours dans des relations de pouvoir, que ça veut dire qu'on peut donc jamais faire de choix. Et donc, un peu essayer de situer où on pense que la ligne devrait être, où est-ce qu'on peut réfléchir à où le consentement peut se mettre, etc. Alors, c'est sûr qu'après ça, là, il y a différentes formes d'agression sexuelle qui peuvent être soit dans l'intimité ou soit, tu sais, sur la place publique. Ça peut aller d'insultes sexuelles à un viol, ça peut aller à de l'inceste, des accouchements, le voyeurisme, l'exhibitionnisme, etc. Donc, il y a vraiment différentes manières. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, nous, ce qu'on avait compris, c'est qu'on veut se concentrer sur les contextes où l'agression sexuelle se fait avec des personnes qu'on connaît, qu'on a rencontrées. Bon, le niveau de connaissance peut être différent, mais des gens qui sont dans notre milieu, parce que ça amène une complexité qui est spécifique. Et c'est en fait à l'encontre de beaucoup des mythes qui sont faits sur l'agression sexuelle, mythes qu'il faut d'ailleurs déconstruire, et c'est d'essayer de voir dans ces situations-là, qui sont en fait la plupart des situations d'agression sexuelle, comment on fait pour gérer, déconstruire, réfléchir. OK. Moi, je continuerai avec la...
Ouais. On commence tout de suite à vous faire travailler, en fait.
J'espère que vous êtes bien réveillés.
Parce qu'à cette heure-ci, si on continue à vous lire certaines définitions, je suis sûre que vous allez vous endormir.
Fait que là, j'ai une vingtaine de copies. Le but, c'est de travailler à deux ou trois, OK? Fait que je dépasse, puis vous autogérez là-dedans. Puis l'objectif, en fait, c'est de prendre 5 minutes pour lire le texte. Puis là, ce qu'on aimerait faire, c'est qu'on ressorte dans ce texte-là les mythes autour de l'agression sexuelle.
C'est ça.
C'est un texte qui transpose le contexte d'une agression sexuelle à un autre type d'agression, qui est un vol, OK? Un vol d'argent. Et qui nous fait rendre compte de la difficulté de nommer. La difficulté à. Pas la difficulté. L'espèce de.
Présomption.
Présomption, présomption autour du rôle de la victime, du rôle de l'agresseur dans les cas d'agression sexuelle. Donc, c'est de transformer ce mythe-là, qui est une parodie, en fait, de la gestion des agressions sexuelles. Quand il a été écrit, c'est un texte qui est quand même vieux. C'était toutes les choses qui étaient un peu ancrées dans la loi, comme Rachel va nous dire tout le temps dans la journée. Beaucoup des éléments de ce texte-là ont changé dans la loi, mais socialement n'ont pas encore changé. Donc, c'est d'identifier, transposer le texte dans une relation d'agression et ensuite d'identifier les mythes qui sont autour de ça, les mythes sociaux. C'est correct? Tu as cité? Alors, go!
Ce que c'est bien, ça va, on peut vous mettre ça en groupe. Vous avez trouvé une couple de mythes qui étaient inscrits dans ça?
OK.
Peut-être que ça serait plus facile si on les écrit au tableau, comme ça on va être visuel. Fait qu'on. Fait que je commence. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans ce contexte-là? Fait qu'est-ce que vous avez bien compris l'analogie, premièrement? Oui, c'est clair, hein? Bon. Donc, ce serait quoi que vous pourriez identifier comme un des mythes qu'on fait circuler autour de l'agression sexuelle de qui sort de ce texte-là, là, qui le met en valeur, en fait, dans ce texte-là? Oui?
L'habillement.
L'habillement, donc?
J'entends encore du monde dire que l'idée qui s'habille sexy, bien, elle cherche. Mm-hmm. Elle cherche l'attention.
Mm-hmm.
L'habillement provoque. Ouais, l'habillement provoque, peut provoquer une agression.
Comme que dire que c'est pas le violeur qui l'a violé, c'est comme.
Elle a comme demandé qu'il
ait la elle voulait de l'attention.
Exactement. Donc, bon, ça blâme la victime, ça blâme la personne qui est victime de violence. T'avais quelque chose à dire?
Ben, en fait, c'est comme si ses vêtements se concentraient pour elle. C'est vraiment.
Mm-hmm.
En fait, les vêtements, ça concentre. Mm-hmm. Mais c'est pas vrai qu'elle sort, c'est vraiment. Si ça fait suppose que quelqu'un, par exemple, qui est homosexuel actif, va être nécessairement toujours d'accord pour avoir des relations sexuelles. Fait que là, c'est ça que ça se
sent. Ça, c'est un deuxième mythe, c'est ça. Tout à fait.
Donc, vous donnez plus d'argent. Ça ne devrait pas vraiment vous déranger de faire voler d'autres argent.
Et on voit l'absurdité du raisonnement quand on transpose à une autre sphère. Je veux dire, c'est pas parce que vous donnez l'argent, mais en fait, dit que.
Ben, c'est souvent ça, tout le monde va dire c'est une salope parce que chaque tout le monde fait que ça doit vraiment la déranger de se faire exister.
Donc, le fait d'avoir une vie sexuellement active fait en sorte que tu n'as plus le pouvoir de décider quand et comment tu as des relations sexuelles.
Il y a souvent un autre mythe qui est lié de proche ou loin à celui-là, c'est celui de avec qui tu as eu des expériences sexuelles dans le passé. Donc, si en particulier tu as déjà eu des relations sexuelles consentantes avec un individu ou une individu, ensuite n'importe quelle autre relation sexuelle avec cet individu-là est nécessairement consentante. Ok, donc le corollaire de ça, c'est en plus si c'est avec cet individu-là qu'il y a déjà eu une relation sexuelle qui était probablement consentante, par la suite, il n'y a plus moyen de dire non à cet individu-là. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez qu'on les écrive ou est-ce que ça va?
Moi, j'aimerais ça.
Oui? Ok. Ok, fait que ça c'est deux autres mythes justement, puis qui sont en lien aussi avec. Oui.
Celui que la conscience du risque t'enlève des droits, moi ça m'a frappé. Mm-hmm. Quand tu dis, vous avez comment vous ne saviez pas qu'il est dangereux de se promener si tard, donc. Si la personne le sait, hop, elle perd le droit de ne pas être agressée.
Mm-hmm.
C'est fort, ça.
Tout à fait.
Ça rejoint le travail que font les policiers d'aller avertir les femmes de ce qu'il ne faut pas faire.
Tu sais.
Ben, l'idée que la conscience du risque t'enlève le droit de ne pas être agressée.
Donc, l'idée que, franchement, tu aurais dû le savoir, si tu te présentes, peu importe le contexte, à ce moment-là, ben, tu l'as cherché encore une fois. On blâme la victime de ne pas avoir pris suffisamment conscience des risques qu'elle prenait. Oui.
L'absence de combativité dans le passage est aussi vu comme une façon de légitimité sexuelle.
L'absence de combativité.
Oui. Donc, d'une certaine façon, ils disent que si tu ne t'es pas débattu, c'est parce que peut-être que d'une certaine façon, ça ne te dérangeait pas tant que ça.
Donc, l'absence de résistance active.
Et on peut voir dans les lignes, vous êtes tous débattus pour un cours de valeur, pardon, et donc vous avez pris la décision pour ça, on est sur ça, ça demande plutôt que de
alors que la personne avait dans ce contexte-là une arme à la main.
C'est ça.
Oui, ok, donc c'est bon.
L'absence de combativité rend responsable.
Excellent. Puis on va revenir à ça dans la socialisation, hein. On s'entend que ça a plein de liens. J'avais une lumière,
dans la maison, c'était dans la maison. J'avais juste noté que parmi les fonds, je ne sais pas comment dire que la personne est enlistée, c'était quelque chose de tout à l'heure conscient, puis ça fait que ça responsabilisait la victime de sa soumission. Ça compte, je le sais pas.
Tout à fait. J'ai vu d'autres mains. Oui, Pierre?
Le contrôle de l'espace. Tu n'as pas le droit d'être à telle place, à telle heure, tant que tu fasses. Sinon, c'est de ta faute d'avoir été là.
Tout à fait, donc en lien avec l'idée que la connaissance du risque t'enlève le droit de ne pas être agressé, c'est qu'en plus de ça, on te dit, ben tu n'as pas le droit d'être là. Et on utilise ça pour différentes raisons, mais c'est ce que tu veux dire?
Oui, mais ça va avec le contrôle de l'espace. Mm-hmm. Ça, c'est la liberté, le concept même de liberté pour les femmes est là-dedans complètement différent. Je pense que c'est important quand on parle de progressisme et de liberté, de comprendre que dans l'agression sexuelle, entre autres, cette notion de liberté, elle est une liberté définie dans un cadre patriarcal. Et là, on le voit très bien, parce qu'elle était là 23 heures sur la rue, elle marchait en plus, femme noire. Donc, c'est le contrôle des femmes mais dans l'espace.
Fait que si tu trouves dans un endroit où est-ce que tu ne devrais pas être selon le cadre patriarcal, tu es responsable de ce que tu vas subir.
Oui?
Moi, j'ai une question. Là, on parle de limite, mais une enquête sur un viol, y a-t-il vraiment cette question-là?
Ben là, écoute, dans la loi, maintenant, vous allez en parler cet après-midi, mais dans la loi, maintenant, il y a des choses qui ne sont pas recevables en cours, dans le sens qu'on ne peut plus parler, je pense, du passé sexuel d'une personne pour discréditer son témoignage, etc. Sauf que ça ne veut pas dire que quand toi, tu vas voir les policiers, qu'ils ne font pas exactement ce procès-là.
Mais souvent, c'est ça. Ça, c'est comme une caricature. Ouais. C'est comme, évidemment que ça sera jamais direct comme ça. Puis ça sera pas il y a eu beaucoup de progrès, puis je suis sûre que Karim va pas réagir à ça, là, mais en tous les cas, c'est clair qu'il y a des messages qui sont peut-être plus insidieux que ça. Il y a des messages qui ressemblent à ça qui peuvent être véhiculés dans la société, ça c'est clair.
Mais socialement, si toi tu dénonces, si tu dénonces, tes amis ils vont peut-être te dire ça.
Okay.
Et donc, c'est encore présent socialement d'une manière que même si c'est plus encadré par la loi, c'est pourquoi ça c'est moi
qui en parle.
Ah, ben,
il y a une personne
qui répond directement à la parenthèse, c'est qu'on va définitivement revenir sur cet enjeu-là par rapport au système judiciaire et à la police dans le deuxième atelier. Mm-hmm. Alors, on peut aussi, juste pour pas.
Parce que j'arrive à un moment quand même. Ce que je voulais dire, premièrement, là, sur l'introduction, c'est aussi que vous mettez dans un cadre où le démarche est dans un cadre où l'agresseur est connu de la victime, mm-hmm. mais c'est dans la majorité des cas, c'est ça.
Ouais.
Ça, c'est un premier.
On va comme revenir en fait.
Déjà la mise en situation, c'est comme un agresseur.
Oui, tout à fait. C'est ça.
Par ailleurs, au-delà des lois du système de justice, ben, les policiers ils sont pas en dehors de la société. Ils adhèrent souvent pour moins limite des sécurités. Fait qu'il y en a des vertes et des bonjours quand les femmes portent plainte. Beaucoup de questions aussi de s'assurer de la crédibilité du témoignage à la plénière. Il y a même des
choses
qu'on a entendu oui. L'utilisation du détecteur de mensonges pour les plénières.
Ah oui,
c'est tout le processus en fait de que la responsabilité de la preuve revient à la victime aussi. Et d'une manière qui, en fait, on se met à considérer la victime comme l'agresseur en presque dans ces cas-là. C'est vraiment, on fait le procès à la victime d'abord, et ensuite peut-être s'il y a pas le procès à l'agresseur.
C'est ça. Mais je pense qu'ils vont y
revenir. C'est comme le mettre dans un autre contexte intéressant, parce que quelqu'un qui porte plainte pour un vol à main, tu présumes pas qu'il peut mentir.
Exactement.
Ouais.
C'est ça le but de l'analyse.
Ouais.
J'ai deux mains, il y avait, ça faisait longtemps dans le soleil, mais...
Oui, bien, en fait, pour faire du pouce sur l'intervention, aussi, c'est dans un lieu public.
Oui.
Puis la grande majorité des.
C'est dans les. Oui. On va y revenir dans la
situation.
On sent ceux qui viennent du texte, OK? Et puis ça, on va aller vers les mythes qui ne sont pas dans le texte.
Oui. Puis en fait, on a comme utilisé ça comme un outil. Tu dis que c'est pas une situation. Qui est dans la norme. C'était comme un outil pour aborder certains mythes, mais évidemment qu'on va
revenir à autre chose.
Des mythes qui nous concernent plus fondamentalement.
Oui,
on
en vient.
Moi, ce qui m'a suggéré, c'est le jour de l'enfant. En gros, celui qui intéresse, on ne voulait pas violer les droits de votre agresseur. C'est comme un petit mythe d'agresseur, qui va vraiment. Je trouve ça idéaliste.
Ça, c'est quand même, que l'agression soit connue ou pas, que l'agression soit dans ton milieu ou pas, c'est beaucoup, beaucoup autour de la protection de cet agresseur-là. Même dans le choix des femmes de dénoncer ou de ne pas dénoncer, ça doit être pris en considération. Il va être exclu, il va dans un an. Et donc, il y a un prendre soin qu'on va revenir dans la socialisation. Mais oui, effectivement, que c'est brimer les droits de l'agresseur. Oui?
Il y avait la question, vous êtes-vous déjà fait violer ou pas de vente? C'était de leur penser au easy rape, c'est-à-dire que ce sont les filles qui sont faciles à violer.
Mm-hmm.
Que c'est juste une des violées parce qu'elles sont violées à répétition et qu'elles ont pas de question.
Tout à fait. Donc, il y a des femmes qui sont violables et d'autres femmes qui ne sont pas violables.
C'est ça.
Et on revient à cette dichotomie-là super souvent qui est en lien avec. C'est qui cette femme-là, c'est quoi sa couleur de peau, c'est quoi son statut social, c'est comment elle était habillée, où est-ce qu'elle se trouvait, etc. Est-ce qu'il y a d'autres mythes qui sortent de ce texte-là? Tout à l'heure en main, c'est correct?
Ah, ça va, c'est
bon. Est-ce qu'il y avait d'autres mythes?
Oui, mais une personne en arrière, peut-être juste préciser que vous avez comme défendu que c'était un outil didactique là, pour faire une mise en situation, mais le fait que c'est justement une situation qui est moins de celle dont on veut parler, puis qu'on pense souvent que ça va être dans une ruelle,
ouais.
C'est un mythe en soi.
Mais on va vraiment parler, on y vient.
Parce que j'ai juste eu l'impression qu'on se défendait d'avoir utilisé une mauvaise mise en situation, alors qu'en soi, ça fait partie de la démonstration.
Mais tout à fait, ça va nous aider en fait à déconstruire plusieurs mythes autres dont on va parler tantôt.
Ça revient un peu avec la combativité, mais tu sais, le fait d'aller vous crier à l'aide, c'est comme si
ah ben là, si t'as pas appelé à l'aide, encore là, t'es responsable, ou ça serait peut-être pas arrivé si t'avais appelé à l'aide, ou puis au niveau de la peur, là, tu sais, de comme utiliser l'émotion que la personne avait pour peut-être comme ne pas légitimer cette émotion-là, ou. Fait que c'est aussi là.
Encore une fois, de la combativité dans des termes, tu sais, comment on peut concevoir même le fait de se défendre, tu sais. Mm-hmm. Ça veut dire quoi se défendre pour une femme? Ça veut dire quoi se défendre pour un homme? C'est complètement différent. Puis légalement, c'est sûr que c'est codifié très souvent pour les hommes. Tu sais, c'est la défense type masculine qui est considérée comme légitime. Mm. Ici,
comme en Inde, ils ont les castes. Alors, il y en a, ils pensent comme, je sais pas, comme après le travail, les gars, là, ils vont se dire, ben ouais, lui, il n'a pas de blonde, alors c'est nécessaire d'avoir des prostituées. Alors, c'est correct de les droguer, c'est comme les gens qui pensent que l'esclavage, ça fait partie de la nature humaine.
Et aussi que ça. On va y revenir dans les mythes sur les hommes et leur besoin de s'assouler.
Incontrôlable.
Oui, c'est ça.
Mais encore par rapport au fait d'appeler à l'aide, la convertibilité, tout ça, tu sais, même une femme, on peut dire, oh, t'as-tu dit non? Est-ce que t'as dit clairement non? Puis c'est même pas combatif de dire non, c'est juste dire non. Parce que des fois, t'as peur, mais un contexte, tu sais, justement, quand on parle de consentement, voir. C'est pas juste de ne pas être combattif, c'est que des fois tu peux pas dire des choses, tu t'en fais capable de dire des choses, ça veut pas dire oui. Rien, ça veut pas dire oui.
Mais lorsqu'on va parler de consentement, on va voir qu'il y a plusieurs manières. Il y a plusieurs signes qui peuvent montrer que tu consens pas, t'sais, qui doivent être lus aussi par d'autres personnes. Fait qu'on. C'est ça.
OK. Ben là, on va continuer avec les mythes qui sont pas dans ce texte-là, puisque, comme vous l'avez tous et toutes noté, c'est un cas atypique, puisque la plupart, en fait, c'est un mythe que la plupart des agressions sont commises par des étrangers. 80% des agressions sexuelles se passent par des gens que les femmes connaissent. Donc, c'est vraiment atypique comme cas, là, ce qu'on vous a donné. Et ça, en fait, ça engendre des dynamiques encore plus complexes dans la réalité de comment on fait pour dénoncer. Puisque ça, l'analogie se fait avec le voleur. Bon, on peut le concevoir relativement facilement. On peut voir. En fait, une des différences, c'est que si c'est quelqu'un d'étranger, cette personne-là, étrangère, devient quelqu'un de méchant. Ouais. Ça devient quelqu'un de complètement méchant. Alors que quand c'est quelqu'un qu'on connaît, qui fait partie de notre entourage, on a la difficulté à dire que cette personne-là est une mauvaise personne. Mm-hmm. Puisqu'elle ne se fait pas toujours définir seulement par cet acte-là. Et donc, ça complexifie énormément les relations.
Et compte tenu aussi de ce que tous les autres autour vont se dire par rapport à cet agresseur-là, ça, c'est une autre chose aussi qui entre en ligne de compte lorsque tu es victime d'une personne qui est dans ton réseau, évidemment.
Autre mythe, c'est que justement, les agressions sont faites dans la rue, sont faites dans des endroits publics, alors que 60% des agressions se font dans une maison privée. Le plus souvent, celle de la victime. Donc, 40% des cas, c'est dans la maison de la victime et ou de la survivante. Et ça peut être dans des parties, ça peut être dans l'auto des agresseurs ou des agressés, ça peut être dans différents lieux, mais c'est souvent des lieux relativement... c'est pas des lieux publics. En fait, dans 60% des cas, c'est pas des lieux publics.
Les deux tiers.
Au moins 18 ans. Ouais. Sauf que c'est ça aussi, il y a juste 10% des femmes qui déclarent leur agression, qui vont voir la police. Alors, c'est sûr que les statistiques de la police, c'est toujours...
Ouais. Ce qu'on observe, c'est que plus de 95%, voire même 98% selon nos sources, les agresseurs sont des hommes. C'est fait que souvent, c'est une violence qui ne se fait pas de manière symétrique, en fait, entre hommes et femmes. Mm-hmm. C'est une violence en très, très grande majorité des hommes envers les femmes.
Bien, c'est 80% des victimes sont des femmes, mais 98% des agresseurs sont des hommes. Mm-hmm. Donc, ça fait que les hommes peuvent être agresseurs envers d'autres hommes aussi. C'est pas instantanément envers des femmes, mais il y a juste 2% des agresseurs qui sont des femmes. Je pense que c'est ça qu'il faut tirer en termes de rapport de mm-hmm. domination. C'est que c'est majoritairement envers des femmes, mais c'est encore plus majoritairement des hommes qui le font. Et même si donc il y a des hommes qui sont victimes, c'est pas les mêmes femmes. Oui, c'est ça. Souvent, ça va être des jeunes.
Parce que ça... Pardon? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas entendu.
Je savais pas non plus que c'était équilibré le fait que tu en avoir entre
Non, c'est clair. C'est clair. Mais là, c'est ça. C'est clair que lorsqu'on parle d'un phénomène, on n'a pas le choix non plus de parler avec les constats globaux, en fait.
En fait, c'est pas vrai que c'est seulement les homosexuels qui font des agressions sexuelles envers des hommes. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont pas homosexuels, qui s'identifient pas comme homosexuels, qui ont des partenaires, qui sont mariés, qui ont des enfants, qui ont publiquement un type de vie pas du tout homosexuel, mais qui vont faire des agressions contre des jeunes garçons ou des hommes. Ouais. Alors, il faut faire attention. 95%, je pense, notamment des agresseurs qui agressent des hommes ont des relations sexuelles stables avec des femmes dans la vie de tous les jours. Alors, justement, il ne faut pas faire de lien non plus. Oui?
C'est peut-être principalement dû au niveau de la réflexion sur les agressions sexuelles d'un côté comme de l'autre. J'ai l'impression qu'il y a un problème épistémologique dans ces données-là, au niveau du fait que les femmes se sont sensibilisées depuis plusieurs années à parler de leurs agressions, à parler de comment que ça se passe, même si c'est pas la paresse, c'est ça, c'est dans le théâtre. Mais les hommes sont pas nécessairement éduqués à ça non plus, puis ils vont avoir tendance peut-être plus à considérer que, ouais, j'ai vu que c'est imposé à moi, mais c'était cool, genre, parce que c'est imposé à moi. Puis on se fait un autre récit pour pas.
Ouais. Mais peut-être que ça pourrait être intéressant que tu nous ramènes ça lorsqu'on va parler de la socialisation et de comment est-ce que ça peut interagir dans les phénomènes. C'est peut-être quelque chose que tu pourrais rapporter là, si tu veux bien.
Ça pourrait être intéressant. Qui voulait intervenir?
Juste pour, parce qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus. C'est une donnée qui a été prise en compte par beaucoup de chercheurs parce que depuis une quinzaine d'années, il y a une très, très grande sensibilité à l'égard du fait que les hommes sont aussi des victimes, et en fait, depuis une vingtaine d'années là, maintenant. Et ce qu'on constate au niveau des statistiques, quand on essaie d'aller dans les statistiques plus complexes des gens qui se sont fait agresser, qui n'ont pas rapporté leur agression, ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, du moins, il n'y a pas de surreprésentation des hommes chez les victimes qui ne rapportent pas leur agression. Et il n'y aurait pas non plus de surreprésentation des hommes chez les gens qui sont en déni par rapport à l'agression qu'ils ont subie, dans la mesure où, même si, en fait, là, on surévalue le niveau de sensibilité des femmes par rapport au fait que il y a une réalité à qui n'est pas tout à fait exacte quand on dit que depuis une vingtaine d'années, depuis une trentaine d'années, on a beaucoup sensibilisé les femmes à la réalité de l'agression sexuelle et que c'est beaucoup plus correct pour une femme de dire qu'elle a été agressée. C'est faux. Cette chose-là ne s'est pas transférée sur le terrain. Donc, il n'y a pas de déséquilibre de ce qu'on peut constater aussi grand qu'on pourrait être amené à l'imaginer. Mais on a une perception de déséquilibre parce qu'il y a une dizaine d'années, on a beaucoup mis l'accent sur le fait que les hommes étaient sans doute autant victimes que les femmes. Et cette donnée-là, même si ça a été beaucoup mise en avant par les médias, n'a jamais été vérifiée.
Merci, Rachel. Tant qu'à être dans les statistiques, je trouve ça important de souligner qu'il y a certaines populations de femmes qui sont particulièrement représentées, en fait, chez les victimes. On parle, entre autres, des femmes autochtones. Ici, 75% des jeunes filles autochtones âgées de moins de 18 ans ont été victimes d'agressions sexuelles. Et les femmes qui ont des handicaps aussi sont surreprésentées chez les victimes. 40% des femmes ayant un handicap physique vivront au moins une agression sexuelle au cours de leur vie.
Ce qui contraste avec le fait que, même si c'est énorme, là, pas pour dire que c'est pas, mais que de manière générale, c'est une femme sur trois qui agresse sexuellement au cours de sa vie, donc plus ou moins 33% des femmes dans la population générale, là, toutes confondues, qui vont avoir des relations, et donc c'est une surreprésentation par rapport à ces statistiques-là. Mm-hmm. L'autre aspect important, pour revenir à la personne dans la rue versus à la personne dans notre entourage, c'est qu'il y a seulement 3% des agresseurs qui ont des problèmes de santé psychologique. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qui est, d'une manière générale, attribuable à une déficience individuelle ou à un problème de relation individuelle. Mm-hmm. C'est vraiment, dans la 97% des cas, quelqu'un qui fonctionne très bien dans la société, qui n'a aucun problème, qui est monsieur, madame, tout le monde, notre voisin, notre ami, etc.
Mm-hmm. Juste en lien avec ça, il y a pas si longtemps, j'assistais à un événement, puis on parlait que les hommes pouvaient avoir une déviance sexuelle. En fait, que les hommes agresseurs auraient une certaine déviance sexuelle. Dans ma conception, c'est un mythe. En fait, lorsqu'on parle d'une déviance, ça implique que c'est hors norme. Toutefois, je pense que lorsqu'on parle des hommes, des agresseurs, je pense pas qu'on parle d'une petite catégorie qui soit hors norme. Tu sais, je pense que c'est un problème social. Ça fait partie, malheureusement, Il y a certaines choses qui sont liées aux normes sociales actuelles. Je pense qu'on va pouvoir en discuter aussi dans la socialisation tout à l'heure. Mais je pense pas qu'on puisse parler dans cette situation-là d'une déviance sociale et faire comme si les agresseurs, c'était une petite partie de la population qui soit différente et malade, disons.
Puis en fait, des fois, pour nous aider à concevoir ça, ça peut être vu sur le continuum de la violence, tu sais. On peut faire un continuum d'agression, tu sais, où est-ce que peut-être l'étranger dans la rue qui le fait avec à bout portant, avec une arme, c'est un des extrêmes où est-ce que la violence, elle est claire, elle est identifiable, elle est physique, elle est... on peut pas la remettre en question. Puis il y a tout un continuum de pression sociale qui se fait de manière beaucoup plus... insidieuse, mais aussi qui fait partie des dynamiques plus quotidiennes de notre vie. Mm-hmm. Donc, c'est, non seulement c'est de... C'est, mais c'est quand même de la violence. Par exemple...
Okay. Oui. Ah, après ça, ben, tu peux finir.
Vas-y.
Mais moi, je me demande, parce que si tu me dis qu'ils sont 3% des agresseurs à avoir un trouble, quelque chose, mm-hmm. ou à avoir un problème, ça n'enlève pas que quelqu'un qui agresse quelqu'un d'autre a vit quelque chose de... vit un mal-être ou a besoin de pouvoir ou être à la recherche de quelque chose que quelqu'un qui... Mais moi, je me dis, pourquoi mon père n'a jamais agressé personne? Dans le sens, lui, il a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui le différencie de la personne qui va l'agresser.
Bien, pas nécessairement, parce que, d'un, on n'est pas sûr que ton père, il n'a jamais mis de pression sur ta mère pour avoir des relations. Je veux dire, je ne veux pas faire le procès de ton père, mais comment tu c'est de comprendre... C'est de comprendre que la plupart des hommes, à un moment ou à un autre, vont mettre un peu, voire beaucoup de pression sur une femme pour avoir des relations sexuelles et qui sont aussi socialisés comme ça. Et sans dire, donc, tous les hommes sont des agresseurs, de comprendre qu'ils ont tout le potentiel de l'être si jamais ils veulent. Et ils ne sont pas obligés de devenir l'agresseur méchant, le gars qui a le gun, pour devenir un agresseur. La plupart des hommes qui nous entourent ont à un moment ou un autre de leur vie mis un peu de pression sur une fille pour avoir des relations. Est-ce que ça fait que c'est un viol? Est-ce que ça fait que c'est une agression sexuelle? Ben là, c'est là qu'on revient à la notion de consentement. Mais par exemple, il y a d'autres statistiques, celles-là qui viennent de la FCA Québec, la Fédération canadienne des étudiants et étudiantes, qui disent que 20% des étudiantes ont dit qu'elles ont cédé à des relations sexuelles sous la pression. Ça veut dire qu'elles ont cédé, c'est pas nécessairement considérable comme un... Là, on va revenir quand on va parler de c'est quoi le consentement, mais elles ont cédé. Elles ont dit oui, pas parce que ça leur tentait, parce que là, il est tellement fatigant, mm-hmm. Steve, vas-tu, tu sais, ça va aller plus vite si je dis oui, puis ça prend 2 minutes, puis je... Alors, il y a aussi, tu sais, qu'est-ce que... Et c'est pour ça que c'est important de ne pas dire que les agresseurs sont des fous furieux qui ont des problèmes individuels de relations. Non, tout ça fait partie des relations sociales qu'on a appris. Les hommes comme les femmes, on a appris des choses spécifiques par rapport à comment on doit vivre ces relations-là, qu'il faut déconstruire. C'est bon?
Mm-hmm. Puis c'est ça, il y a aussi un lien direct avec le flou, en fait, qui entoure toute la notion de consentement et de relations saines et égalitaires.
L'autre, peut-être la dernière, puis après ça, on pourrait passer à autre chose, mais que je voulais quand même mettre de l'avant parce que c'est souvent un mythe qui est utilisé pour permettre la remise en question de la victime, c'est que seulement 2% des accusations d'agression sexuelle sont des fausses accusations. Donc, il y a une espèce de mythe que les femmes vont utiliser ça comme type de manipulation pour, en fait, s'en reprendre aux gars pour autre chose, puis etc. Dans les faits, ou dans les statistiques, à tout le moins, puis peut-être que vous allez en reparler cet après-midi, là, mais c'est seulement 2% des accusations qui sont portées à tort. Et donc, l'espèce de réflexe de toujours questionner la crédibilité de la victime n'est pas du tout basé dans les données, est vraiment basé dans la crédibilité qu'on apporte à la parole des femmes de manière générale dans la vie. Enfin, qu'on croit qu'est-ce qu'une femme dit, souvent il faut que ce soit répété par un gars. Pour qu'on croit qu'est-ce qu'une femme dit, il faut que ce soit dit par 3 femmes. Et donc, ça fait partie de cette espèce de mythe que les femmes vont utiliser l'agression sexuelle pour se venger de quelque chose d'autre que le gars aurait fait. Et donc, je pense que c'est dans les stats une importante. Oui?
Sur la même ligne, il y a un autre phénomène qui ne revient pas si souvent, mais qui est juste celui de la théorie du complot. Je pense que l'un des cas les plus médiatisés, c'est le procès de DSK,
oui.
Où on expliquait que l'infirmière était juste un pion dans une théorie du complot pour essayer de faire descendre la présidence française. Je pense que c'est quelque chose qui devrait être discuté parce que dans la plupart des cas, on voit les femmes comme dans les statistiques.
Mm-hmm.
Je veux utiliser
ouais. Oui. Parce qu'on s'est attaqué aussi à la réputation de la femme quand même dans les médias aussi pour discréditer, comme tu dis.
Parce qu'on prend pour acquis qu'elle n'a aucun intérêt à le faire pour... qu'elle n'a aucune conséquence de cette agression-là. Donc, si elle le dit, c'est pour...
Parce qu'elle veut autre chose.
Tu voulais-tu ajouter... Oui, oui, c'est ça, elle voulait de l'argent. Parce que, et puis c'est aussi pris pour acquis que le dénoncer, mais ça peut-être tout cet après-midi, c'est un processus simple qui n'a aucune conséquence sur soi, qui est très agréable, hein? qu'on n'a pas à revivre l'événement 40 millions de fois pour pouvoir, tu sais, qu'il ne faut pas le justifier à tout le monde tout le temps à répétition, et donc on en revive cet événement-là. C'est bon, est-ce qu'il y avait d'autres statistiques que tu voulais qu'on dise?
Non. Je pense qu'on peut passer à la notion de consentement.
Au pire, on reviendra mm-hmm. si...
Ouais. Mais je pense qu'on est revenu de manière directe ou indirecte à, souvent à cette notion-là de consentement, en fait. Puis comme on dit, cette notion-là fluctue vraiment. Mais vraiment, il y a quand même des choses sur lesquelles on peut s'entendre assez facilement. Mais il y a certaines nuances, je pense, qui peuvent être matière à réflexion. Juste hier, j'étais sur un site qui a été fait par des hommes en Ontario pour sensibiliser d'autres hommes à l'importance du consentement et à c'est quoi un consentement réel. Et puis eux, qu'est-ce qu'ils disaient, c'est que dès qu'il y a usage de drogue ou d'alcool, il n'y a pas de consentement possible. Fait que là, c'est comme, ah, OK, tu sais, là, j'étais comme surprise, mais c'est ça. T'sais, donc, ça, c'est un exemple parmi d'autres, tu sais, qui illustre que cette notion-là peut être changeable, en fait, dépendamment à qui tu parles. Oui? Ouais. Ouais. Surtout dans les milieux anglophones, tu as tout à fait raison. En Ontario, aux États-Unis aussi, tu me disais que c'était énorme.
C'est vraiment dans les campagnes de sensibilisation contre l'agression sexuelle. Il ne peut avoir de consentement s'il y a prise d'alcool ou de drogue, peu importe la quantité.
Mm-hmm.
Mais c'est intéressant d'ajouter justement là-dessus un mythe à propos des drogues, du viol. Mm-hmm. Les filles, surveillez votre mère. Bon, ben, c'est sûr que dans la société où on est, uh-huh. les conseils peuvent quand même être utiles, mais
oui.
Dans les cas d'intoxication volontaire ou involontaire, c'est d'habitude l'alcool et le cannabis qui mm-hmm. sont souvent.
Uh-huh. Mm-hmm. Ouais, c'est comme ça, on focus notre attention sur la drogue du viol quand, dans le fond, le risque, c'est pas que ça. C'est comme, ça peut être ta propre consommation aussi.
Oui,
oui, oui.
Dès que, dans ces campagnes-là, est-ce que c'est juste ça, dans le sens que dès qu'il n'y a pas de.
Non, c'est pas basé que ça, mais là, je ressortais juste un élément qui est contradictoire pour illustrer.
Montrer le fait que. Si on veut, je pense que dans le fait qu'on essaie de travailler sur qu'est-ce qu'on veut pour nos milieux, tu sais, je pense mm-hmm. qu'ici, on est là pour se poser des questions sur qu'est-ce qu'on veut pour les environnements dans lesquels on évolue. Mm-hmm. Bien, je sais que moi, j'ai envie de pouvoir prendre un verre et pouvoir dire oui, OK? J'ai envie que mon oui soit quand même reconnu. Je veux dire, il y a comme quelque chose là-dedans, tu sais. Mais ça veut aussi dire que mon nom est reconnu et que mon nom n'est pas remis en question par le fait que j'ai pris un verre. Je veux dire, et donc, est-ce qu'on peut... Je pense que l'objectif de la discussion, c'est aussi... Mais tu veux, je te laisse.
Oui, mais là, je voulais pas m'arrêter là.
Oui, non,
c'est comme un exemple qui a fait parler beaucoup, mais en fait, je pense qu'il y a différents messages, en fait, qui peuvent être contradictoires, voire même négatifs par rapport au consentement. Je pense que dès notre plus jeune âge, en fait, on reçoit divers messages. Puis, je m'en voudrais de passer sous silence l'impact que la pornographie peut avoir sur notre notion du consentement même, sur aussi tout ce qui est, en fait, on perçoit que par la pornographie, si on se fie juste à ça, on peut même se dire, si on est un jeune garçon ou une jeune fille, que la violence peut être aguichante, tu sais, peut être... Que ça peut stimuler le désir, qu'il peut avoir un échange sexuel bien hot par la violence, même quand il n'y a pas de consentement. Ce qui est, c'est ça. Et voire même que le message qu'on peut en retirer, c'est que même si les femmes disent non, elles peuvent vouloir dire oui, puis y aimer ça quand même. Donc, en tout cas, il y a divers messages qui sont très, très négatifs par rapport au consentement qu'on peut voir à travers certains médias comme la pornographie, mettons, pour ne parler que de ça. Mais moi, en fait, c'est ça. J'aimerais qu'on puisse essayer de se demander ensemble, puis je pense que c'est pas si simple, mais dans quelle situation est-ce que il n'y a pas de consentement pour ensuite revenir vers ben, qu'est-ce que ça prend pour qu'il y ait un consentement. Je vous invite à prendre comme un 5 minutes en mini-groupe de 2 ou 3 pour juste voir ensemble est-ce que vous pouvez vous entendre en fait sur des situations où est-ce qu'il n'y a pas de consentement. Et puis on va revenir ensemble après.
Alors, oui, madame.
Oui, mais on
m'en
fait, je n'ai pas de réponse. En fait, c'est un grand questionnement. Je me rends compte que plus on discute de consentement, je me questionne moi-même, en fait, si quand j'ai eu des relations sexuelles à un moment donné, est-ce que j'ai accepté ou est-ce que j'ai décidé un jour d'avoir une relation sexuelle parce que finalement, dans ce contexte-là, il fallait en avoir une. Puis là, je vais donner l'exemple, par exemple, le soir de mon bar en secondaire 5. Est-ce que j'ai eu une relation sexuelle ce soir-là parce que socialement, c'est ça qui se passe dans ma vie? C'est comme dans les films, le soir du bar, les relations sexuelles, le temps de la vie pour faire aller. Est-ce que.
Une responsabilité de chacun aussi de respecter ses propres limites, de se questionner par rapport à ses limites et de les respecter un coup qu'on a conscience de ses possibilités. On ne fait pas toujours cette réflexion-là, en fait.